Visage d'église. Visage d'église, une émission présentée par Pascal Bahut sur Radio Présence dans le Lot.
Auditrices et auditeurs de Présence Figeac, bonjour. Ici, c'est bien votre émission Visage d'église. Vous ne vous êtes pas trompé d'heure, mais la voix est un petit peu différente puisque Pascal Bahut a laissé partir son micro, oui, oui, jusqu'à Paris, très loin. Et nous voici de nouveau avec le frère Yves Combeau, qui est dominicain. Bonjour, frère Yves.
Bonjour.
Donc, je vais vous demander, frère Yves, ce que c'est qu'un dominicain.
Ah, c'est un drôle d'animal. Alors, le dominicain, c'est un animal qui vit exclusivement dans les villes et qui, je vais arrêter de parler d'animaux, et qui a fait profession de prêcher, puisque le nom officiel de l'ordre, c'est l'ordre des frères prêcheurs. Et notre vie de religieux est donc dédiée à la prédication sous toutes ses formes. Alors ça peut être la prédication en chair, si j'ose dire. Ça sera dans mon cas la prédication par l'image et la télévision, mais nous prêchons aussi dans les écoles, dans les prisons, dans les hôpitaux, par écrit, par oral. Beaucoup d'entre nous sont professeurs, notamment dans les universités catholiques. Ça peut être des retraites, ça peut être des livres, bref, toutes sortes d'activités.
Alors, je suis assez surprise parce que même si je côtoie un petit peu les dominicains, mais bon, sans être reliée à eux, moi, je me disais, je suis venue ici à Paris, au couvent des dominicains, et un couvent, bon, bien sûr, comme vous, auditrice, auditeur de Présence Figeac, ou d'ailleurs, ou de Midi-Pyrénées, un couvent... C'est de plus en plus un mystère, sauf si vraiment si on est dans la boucle, dans le circuit et à un certain âge. Donc un couvent, ça c'est mystérieux parce que vous avez parlé de prêcher à tout vent. Et moi, on peut imaginer le silence, on peut imaginer la capuche rabattue jusque sur les yeux. C'est pas ça.
C'est pas tout à fait ça. En partie quand même. Alors, je vais vous apprendre quelque chose. Personne ne sait d'où vient le mot couvent, mais je vais vous l'apprendre. Ça vient du latin conventus, qui veut dire réunion. Et donc, un couvent, c'est une maison commune. C'est une maison où habite une communauté. Une communauté de dominicains, ça va de 4 ou 5 frères à une trentaine. Après, ça commence à faire trop. Ici, à Paris, à l'Annonciation, nous sommes une vingtaine. Et le couvent comprend donc tout ce qu'il faut pour faire vivre cette grande famille, c'est-à-dire autant de chambres que de frères, des parties communes, des salles de réunion, une église, naturellement. Et vous avez raison pour ce qui est du silence, hein, puisque ça reste une maison de religieux, ça n'est religieux. Et pour ce qui est de la capuche rabattue, ça dépend beaucoup des frères, parce que là, au moment où je vous parle, moi je suis absolument en civil, étant donné que j'étais en train de travailler chez moi et de fumer la pipe, et que l'habit est incompatible avec cette activité. Mais bien sûr, nous sommes en habit à l'office, ça va de soi. Un couvent, c'est quelque chose qui est devenu exotique parce que nos villes et nos villages n'en connaissent plus beaucoup. Nous confondons souvent les couvents avec les monastères, qui sont des établissements par définition ruraux, puisque les moines vivent à la campagne et vivent de leurs mains à la campagne. Nous autres, les religieux et religieuses des villes, nous vivons donc dans des couvents. Mais à Paris, il y a encore, je crois, une bonne trentaine de couvents.
Donc le monastère à la campagne et le couvent à la ville.
Oui, alors, le monastère à la campagne, parce que le moine, en grec monos, est l'homme ou la femme qui a choisi la solitude de vivre de ses mains et de la prière à l'écart. Et donc, les monastères sont, sauf exception, il y a toujours des exceptions, mais les monastères sont normalement vraiment au fond de la campagne, dans ce qu'on appelait au Moyen-Âge les déserts. Il n'y a pas des déserts de nature, mais des déserts d'hommes. Par contraste, les couvents sont des établissements urbains, grande ou petite ville, où vit une communauté qui peut être très cloîtrée, comme les carmélites, ou au contraire très ouverte sur son entourage, comme vous avez certainement connu les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul ou telle autre congrégation hospitalière ou enseignante qui forme couvent.
Bien, donc quand vous choisissez un couvent, puisqu'il y en a 30, vous choisissez celui-ci plutôt que celui-là ?
Alors, j'ai dit 30, c'est toute congrégation confondue. les dominicains, nous avons deux couvents à Paris, ce qui est déjà beaucoup, et une quinzaine de couvents en France. Pour vous, auditeurs de Midi-Pyrénées, vous avez les couvents, j'allais dire, de la ligne de chemin de fer de Bordeaux à Nice. C'est-à-dire Bordeaux, Montpellier, Marseille, Nice, et j'en oublie au passage, Toulouse bien sûr, et la Sainte-Baume. Le jeune religieux, la jeune religieuse, enfin l'aspirant religieux, religieuse, choisit une congrégation. Et après, c'est la congrégation bien sûr qui décide le couvent dans lequel il ou elle va vivre.
La congrégation d'abord.
Oui, parce que nous faisons vœu d'obéissance. Le vœu d'obéissance, c'est un vœu qui est assez comparable au mariage, en fait, où nous choisissons d'entrer dans une communauté et d'écouter les conseils et éventuellement les ordres de nos supérieurs. Alors, selon les congrégations, l'obéissance est plus ou moins serrée. Vous savez que chez les jésuites, elle est réputée être très forte. Chez nous, les dominicains, la liberté individuelle est très grande, alors que notre ordre est un ordre médiéval, donc plus ancien. Mais pour ce qui est du choix du lieu, ça, c'est vraiment le supérieur.
Donc, si vous voulez bien, sur l'obéissance, est-ce qu'on peut distinguer une obéissance passive et une obéissance active ? Parce qu'on fait ça avec d'autres mots, avec la laïcité, active, passive. Est-ce que l'obéissance, c'est un petit peu soit actif, soit passif ?
Alors, c'est une question qui est très intéressante, qui est délicate, parce que selon les époques de l'histoire de notre Église, on a vu se succéder différents modes d'obéissance. Au Moyen-Âge, on considérait, en ce qui concerne les dominicains, que les jeunes frères qui arrivaient dans notre ordre étaient majeurs, et que, par conséquent, on s'adressait à eux comme à des hommes. Alors, il faut tout leur apprendre, c'est pas parce qu'ils sont majeurs que c'est pas des petits poussins, hein, mais ils gardent une liberté de décision, d'autonomie, notamment dans leurs moyens d'action. Et le supérieur s'adresse aux frères comme à un frère. Dans une époque ultérieure, notamment au XVIIe et XVIIIe siècle, on avait tendance à considérer que les jeunes religieux et religieuses étaient des mineurs, et par conséquent qu'on exerçait sur eux une autorité paternelle. Si bien que selon l'époque dont date votre congrégation, la conception de l'obéissance y sera légèrement différente.
Donc l'obéissance, suivant les époques, nous n'allons pas toutes explorer, mais par exemple aujourd'hui, en 2020, l'obéissance, ça construit quoi ?
L'obéissance, ça apprend à recevoir d'autrui. Je faisais tout à l'heure comparaison avec le mariage. Lorsque vous vous mariez, vous vous remettez dans les mains de l'autre. Je me donne à toi et je te reçois, c'est la formule sacramentelle. Et donc, vous apprenez à grandir par et avec l'autre. Dans le couple, vous apprenez à marcher au pas d'autrui, à répondre aux besoins d'autrui, à exprimer vos propres besoins, à trouver des consensus, le cas échéant, et, selon les moments, à vous sacrifier pour autrui. Eh bien, c'est à peu près exactement la même chose dans un ordre religieux. Vous vous remettez dans les mains d'autrui, vos supérieurs et vos frères, et c'est leur discernement qui va vous conduire à grandir. Alors, vous pouvez... En tout cas chez nous les dominicains, vous pouvez arguer dans un sens ou dans un autre, être immédiatement d'accord, ce qui était mon cas d'ailleurs pour mon arrivée ici à Paris. Vous pouvez au contraire manifester un certain désaccord. Le supérieur va user de son autorité avec beaucoup de discernement, parce qu'il peut aussi vous entendre et changer d'avis. Mais lorsque l'ordre tombe, vous obéissez.
Donc quand même, ça sous-entend que le supérieur est doué. Enfin, j'allais dire, pour prendre une expression tout à fait du monde courant, quoi. Ça veut dire que le supérieur n'est pas n'importe qui, et comment est-il choisi ?
Alors qu'il soit doué, je l'espère. Qu'il soit inspiré par le Saint-Esprit, je le crois. Chez nous, il est élu. Nous avons coutume de dire, mais je pense que c'est vrai d'ailleurs, que les dominicains sont la plus vieille démocratie du monde, puisque nous n'avons jamais changé notre règle, et que nos supérieurs sont élus avec des mandats assez courts, par tous les frères. Et la plupart des décisions sont prises collectivement. Par exemple, le budget d'un couvent, les travaux dans la maison, l'admission d'un nouveau frère, les modifications liturgiques, quand on en sent le besoin. Tout cela est soumis à un vote extrêmement formel, que nous vivons en communauté dans cette réunion qu'on appelle le chapitre.
Donc vous partez du moindre euro jusqu'à la liturgie, pour tout est compris dans,
alors on va laisser,
dans ce que recouvre la démocratie chez vous.
On va laisser la charge du moindre euro aux frères économes, mais pour des travaux qui engagent un peu plus les finances du couvent, oui, on va voter.
Donc la transition sur la démocratie m'aide dans ce que je voulais vous demander, ce que je voulais vous faire découvrir, chères auditrices et chers auditeurs de Présence Figeac et peut-être Midi-Pyrénées, que je n'oublie pas dans cette conversation, c'est la liberté personnelle. Parce que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, un sujet noble. Et donc vous avez dit, il y a l'obéissance, il y a aussi la liberté qui est respectée. Alors ici, la liberté, vous avez creusé quoi par rapport à cette liberté de la personne ?
Alors, on vit dans une société où le mot liberté est employé un peu à tort et à travers, et généralement assez mal. Le chrétien est un homme libre au sein d'une communauté. La grande communauté des chrétiens, c'est l'Église. Après, vous avez des communautés d'appartenance locale, à commencer par votre famille. Et vous êtes à la fois libre et tenu. C'est-à-dire vous êtes la solidarité que vous avez reçue, si c'est votre famille, que vous avez choisie, si c'est votre époux ou votre communauté, cette solidarité induit des devoirs. Et votre liberté, elle est toujours en dialogue avec ces devoirs que vous avez reçus ou choisis. Et elle n'a d'autre limite que votre conscience. C'est-à-dire que l'homme chrétien est toujours appelé à juger de lui-même, avec l'aide du Seigneur bien sûr, et avec l'aide des autres, mais à juger de lui-même ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce à quoi il va obéir et à ce à quoi il n'obéira pas. Alors, dans le cas d'une congrégation religieuse, nous croyons que nos supérieurs sont inspirés. C'est pour ça que nous recevons leurs ordres, s'ils sont exprimés formellement, avec obéissance. Dans d'autres domaines, comme la vie publique, la vie sociale, nous devons conserver une entière liberté de jugement.
Alors je vous remercie, frère Yves. Je vous propose, chères auditrices, chers auditeurs de Visage d'Église, de rester sur l'idée de la conscience, parce que je pense que nous allons nous retrouver avec le frère Yves pour parler de la conscience, parce que nous avons juste effleuré en tangente un sujet qui mérite d'être approfondi, si vous en êtes d'accord, frère Yves. Donc, à la prochaine émission.
À bientôt.
Visage d'Église. Une émission qui vous a été présentée par Pascal Bahut sur Radio Présence dans le Lot.